Hébreux, chapitre 3. Bonjour mes amis, c'est un privilège d'être ici ce matin dans le service du Seigneur, et nous espérons et croyons que nous aurons des instants grandioses. J'étais là derrière dans ce que nous appelions le bureau des diacres, où il y a les enregistreurs actuellement. Et j'étais en train de parler avec une jeune dame et sa maman là derrière, qui viennent de Joliet, Illinois. Et j'étais en train de penser quel produit de la grâce de Dieu cette fille était. La plupart d'entre nous ici la connaissent. C'était une alcoolique, un des plus mauvais types. Et je n'ai jamais eu l'histoire claire jusqu'à ce matin, comment, quand elle sortit de l'estrade, elle... Le Seigneur lui avait révélé tout ce qui n'allait pas et ce qui allait se passer. Elle descendit de l'estrade, pleurant et se réjouissant, parce que Dieu l'avait sauvée d'une tombe d'ivrogne. Et elle, une dame s'avança vers elle et commença à pleurer. Sa fille, je crois que c'était une droguée. Et vous savez, par la grâce de Dieu, cette fille fut appelée. Je crois que c'était la nuit, le soir, après que Rosella fut appelée. Et la fille fut guérie de la drogue, et elle et son mari prêchent l'évangile. Et de voir une si gentille petite femme comme Rosella, simplement bien assaisonnée, maintenant elle est très respectable, elle sent un appel dans son cœur. Mais connaissant la Bible sur ce qu'il en est des femmes prédicateurs, voyez-vous, elle sait que c'est quelque chose d'autre. Et Dieu l'a conduit dans des prisons et choses pour rendre témoignage. C'est simplement magnifique de savoir, de chercher la volonté de Dieu. Quelquefois, nous avons un pressentiment, mais nous voulons transporter ce pressentiment dans quelque endroit. Et si vous ne faites pas attention, le diable va prendre ce pressentiment et le pervertira dans quelque chose. Mais aussi longtemps que nous restons avec la Bible, alors, nous sommes justes. Vous voyez, nous avançons exactement avec la volonté du Seigneur. Et ainsi, je crois que Rosella, finalement, se tournera vers les champs de mission quelque part. Parce que l'Amérique ne veut pas l'Évangile. Vous savez cela. Nous avons aussi bon temps de l'admettre. Le peuple anglo-saxon est fini, c'est tout. Il n'y a plus d'Évangile que l'Amérique veut recevoir. Oh, vous en avez quelques-uns épars ici et là, mais juste comme l'Évangile, c'est fini. Et vous ne pouvez même pas leur prêcher, vous ne pouvez pas leur parler. Ils ne veulent rien croire, voyez. Ils ont simplement leurs idées de têtu et ils sont fixes là-dessus. Et la prochaine chose pour cette nation, c'est le jugement. Elle le recevra aussi. Et ça pourra venir par la crise de dépression, peut-être par une bombe atomique, cela pourrait venir au travers d'une grande plaie, une maladie ou quelque chose, mais elle est prête. Cela arrive, des milliers de milles tomberont. Hier, le frère Zabel et moi, nous sommes passés près de... Et frère Wood, venant du Kentucky, où nous avions été pendant 3 journées. Et nous avons passé près d'un projet de maison locative. Et frère Zabel dit, il n'y a pas... J'ai oublié, pratiquement aucune personne qui vit dans ces projets ne vont à l'église. Vous pouvez leur en parler. Oh, nous en avons dans notre télévision. C'est de là que nous tirons notre réconfort. Vous voyez, c'est l'attitude américaine. Vous voyez, nous avons des télévisions, nous avons beaucoup d'argent, nous avons de belles voitures, de belles maisons. Pourquoi aurions-nous besoin du Seigneur? Nous n'avons pas besoin de cela. Et c'est l'attitude. C'est à peu près seulement parmi les personnes vraiment pieuses que nous avons la seule religion et le salut que nous aimons. Vous savez, la Bible dit que cela devait arriver. Vous tous qui lisez la Bible, je vous ai entendu crier « Amen !» Et vous, prédicateurs, là-bas derrière, c'est juste. L'amour serait si loin dans les derniers jours que le seul amour qui resterait serait parmi les élus du peuple de Dieu. Le père serait contre la mère contre le père, les enfants contre leurs parents, et bien des autres encore l'un contre l'autre. Et le seul amour qui restera sera seulement parmi cet élu. Seulement cet élu. Le mot élu, cela vient du mot choisi. Le peuple choisi de Dieu. Et quand Rosella me racontait cette histoire, il y a un petit moment dans la chambre, je pensais que ce soir-là, elle dit que quelque chose arriva. Et comment elle dit tout au long de sa vie, quand elle était juste une alcoolique, elle ne pouvait pas, une alcoolique anonyme. 4 docteurs la laissèrent tomber. Plus rien ne pouvait être fait. Et comment, depuis ce moment-là, quelque chose se passa. Maintenant, elle n'a plus ses yeux. C'est une gentille, resplendissante jeune femme de 33 ans, à qui on donnerait 22 ans, juste comme Dieu a fait cela pour elle, ce qu'il fit, et comme elle paraît différente. Mais je dis, Rosella, avant la fondation du monde, Dieu avait ordonné ce moment. Oui, monsieur, voyez, bien. Et quand le petit vieux Billy Paul, là-bas derrière où il est, il distribuait les cartes de prière aux gens ce soir-là, combien peu il savait à qui il donnait ces cartes de prière. Cela n'est-il pas magnifique, Rosella? Rosella parle depuis l'auditoire, note de l'éditeur. Amen! Que le Seigneur vous bénisse, Rosella. Je suis sûr que nous ferons cela. Elle veut que l'Église prie afin que Dieu la guide. C'est le « Suivez sa main qui ne change pas ». Oh, c'est si bon! Il y a eu une affreuse proposition qui fut mise devant moi ce matin. Cela concerne un multimillionnaire qui voulait produire ici à Louisville, Kentucky, et me bâtir un tabernacle de 5 millions de dollars. Mais quelque chose à l'intérieur, dans mon cœur, m'a dit, « Attention, tu n'es pas un pasteur, vous voyez ?» Mais alors, 5 millions de dollars en argent, ce serait quelque chose d'approprié. Maintenant, c'est de devoir aller le payer au gouvernement pour du whisky et des choses comme cela, mais il veut le mettre dans un tabernacle pour le Seigneur. Mais j'espère que ça ira à quelques serviteurs de Dieu qui veut et quelques services pour Dieu. Mais c'est 5 millions de dollars à propos maintenant. Pensez à cela. Quel tabernacle cela ferait. Vous voyez comment cela semble fleurir, Rosella. Mais il y a quelque chose là-dedans qui dit différemment. Voyez-vous? Vous voyez quelque chose ici-bas. Nous venons dans ce vieux petit tabernacle pour vous étrangers. Mais cela pourrait être une place éblouissante ici dans le coin. Vous ne réalisez pas cela, mais des gens ont voulu bâtir cet endroit et le construire. C'est de la façon que nous l'aimons, vous voyez, c'est de la façon que nous l'aimons. Nous asseyons sur ces vieux sièges. C'étaient les vieux sièges originaux du tabernacle. Ils passèrent par les inondations et ils flottaient. Et ma Bible était ouverte comme ça sur le pupitre. Cela monta jusqu'à coller au plafond. Et cela redescendit avec une parole ouverte sur elle. Moi, le Seigneur, je l'ai plantée, je l'arroserai jour et nuit, de peur que quelqu'un ne vienne l'arracher de ma main. Comme cela est écrit, à travers en haut avec une pièce ici, elle redescendit juste là, les sièges retombant juste à leur place. Tout ce que j'ai à faire fut de nettoyer et de continuer. Voyez, voyez, ainsi c'est juste de la façon que nous l'aimons. Où il y a des gens ordinaires, une place ordinaire et un merveilleux Seigneur. Amen. Maintenant, aujourd'hui, nous commençons seulement d'arriver à la crème. Vous savez, après que le lait ait tout été entièrement pris, juste la crème. Et rappelez-vous, il faut le lait pour produire la crème. Vous savez, la crème, c'est la contenance du lait. Ainsi, nous étions au premier, deuxième, et nous finissons dans le troisième, et commençons le quatrième chapitre du livre glorieux des Hébreux. L'enseignement de ce livre! Nous pourrions rester avec lui sur un verset pour 3 mois, et simplement montrer que la Bible entière est liée dans chaque verset de la Bible. Avez-vous jamais pensé à cela? Il n'y a aucun verset sur lequel vous pouvez mettre vos doigts. Mais par la grâce et l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons lier tout cela de la Genèse à l'Apocalypse, juste l'un avec l'autre. Il n'y a aucune œuvre littéraire écrite n'importe où qui puisse faire cela. Et mathématiquement et géographiquement et de toutes les manières, il n'y a aucun livre dans la Bible écrit comme la Bible. Il n'y a aucun livre dans le monde, je veux dire, écrit comme la Bible. Il n'y a rien. Les pneumatiques de la Bible sont en parfaite harmonie. Des chapitres égaux, la ponctuation et tout, c'est parfait. Aucun autre livre. Vous ne pourriez pas lire un chapitre sans que celui-ci se croise de nouveau. Mais il n'y a aucun croisement dans la Bible entière. Elle fut écrite par beaucoup, beaucoup de gens, et des centaines, des centaines, des centaines d'années l'un de l'autre, ne sachant aucun endroit, un elle écrivit ici, et un elle écrivit ici, et un elle écrivit là, et quand cela fut formé tout ensemble, cela fit la Bible de Dieu. Et aucun ne contredit l'autre, et pas mathématiquement, géographiquement, n'importe quoi d'autre de la Bible, tout pneumatiquement, tout va parfaitement ensemble. Si cela n'est pas inspiré, je ne sais pas ce que vous appelleriez l'inspiration. Oh, je suis si content pour la vieille Bible bénie. Il y en a qui disent, êtes-vous un catholique, un protestant? Je dis, ni l'un ni l'autre, je crois à la Bible, c'est juste, je crois à la Bible, et je suis content que nous ayons toujours la liberté de la prêcher dans cette nation. Oh, c'est magnifique! Maintenant, nous allons étudier de cette Bible. Et maintenant, nous voulons nous tourner au livre des Hébreux en commençant avec le 3e chapitre. Et nous sommes restés au 15e verset. Et maintenant, vous tous, j'ai vu que quelqu'un a remarqué il y a un petit moment quand j'ai pris mes lunettes pour lire. Ce n'est pas que mes yeux soient mauvais, mais j'ai passé 40 ans. Je peux la lire juste comme cela, juste comme à l'ordinaire, mais je peux la lire mieux avec mes lunettes. Et ils m'ont fait une paire de lunettes pour lire, que je veux employer parce que je peux mieux lire et plus rapidement. Et voilà pourquoi je les ai. Maintenant, premièrement, nous voulons un petit arrière-plan. Car il se peut qu'il y ait des étrangers au milieu de nous qui n'ont pas saisi la première partie du livre des Hébreux. Êtes-vous Madame Cox, assise juste là au bout? Bien, je suis certainement heureux de la voir. Juste avant que je ne commence, comme un témoignage de la grâce de Dieu, voici une femme dont le cancer avait mangé tout le visage. C'est la maman de la sœur Wood. Et j'étais au Michigan avec Jane et Léo et les autres, pour prendre des enregistrements, et sur la route du retour, ma femme m'appela, ou je l'ai appelée. Elle dit, mets-toi tout de suite en prière pour une Madame Cox, la mère de Madame Wood, car un cancer est en train de manger son visage. Cela était descendu au coin de l'œil, et jusqu'à l'os, cela descendait du côté de son visage, et cela se répandait. Quelque docteur avait fait quelque chose, et l'avait fait empirer, et cela se répandait. Il avait mis une sorte de produit sur cela. Et il a descendu jusqu'à Camelsville, Kentucky, jusqu'à, je crois, Acton, Kentucky, et en haut à Louisville pour un traitement. Et alors, Madame Wood, c'est la première fois que je la voyais être déchirée, parce que, bien sûr, c'était sa maman, et certainement qu'elle se sentait déchirée. Je vins dans la chambre et priais pour elle avec la confiance que Dieu dit qu'il répond aux prières. Et quelques jours après, elle sortait, et la voici assise maintenant, avec seulement un « grâce stupéfiante », comme il l'a fait pour elle. Voudriez-vous vous lever? Je ne veux pas que vous soyez un public, mais où était localisé le cancer? Sur le côté du visage, vous voyez, sur ce côté de son visage, en descendant là, autour de l'os de sa joue, et là, autour de l'œil, et Dieu l'a guéri. N'est-il pas magnifique? Combien étaient ici dimanche passé pour voir ce que le Seigneur fit par une vision? Un homme estropié et aveugle, assis juste ici dans une chaise roulante, quelque chose me frappa quand ce vieil homme assis là, il dit, frère Branham, je crois que c'est ce frère juste ici, il dit, faites la même chose pour ma femme, il y a une femme ici qui est estropiée. Mon cœur fondit, j'aimerais, je donnerais n'importe quoi au monde si je pouvais. Mais cela ne tient pas en ma puissance, mais il n'en tient qu'à moi ou à vous de prier afin que Dieu le fasse. Il a une femme qui est estropié, avec une main et un pied paralysés, il me semble. Et cet homme était beaucoup plus mal en point qu'elle, car elle, elle peut se tenir debout et peut un peu marcher. Mais cet homme ne pouvait même pas faire cela. Et il, le cerveau, le nerf principal de l'équilibre, était fichu. Maillot et beaucoup d'autres l'avaient laissé tomber. Et un catholique l'envoya ici, un docteur catholique. Son garçon est un prêtre à Saint-Menrad, là-bas, en bas à Jasper, Indiana. Et c'est poser les fondations pour le réveil qui arrive là-bas au fond. Et quand il se leva, il dit, « Mais je ne peux pas !» Il regarda et dit, « Oui, je peux !» Il pensait qu'il ne pouvait pas voir, vous savez. Il regarde en haut. Il lui prit simplement de lever sa tête. Et là, il pouvait marcher et voir. Il descendit tout au long de la travée tout seul. Et ils étaient presbytériens. Et il était orthodoxe. Et pensez, vous pensez qu'il y a seulement les pentecôtistes ou les gens de la sainteté qui peuvent faire du bruit? Vous vous trompez. Ils peuvent certainement faire beaucoup de bruit quand ils voient quelque chose comme cela arriver, se serrant l'un l'autre et criant. Il sortit directement, descendit les escaliers, poussant sa chaise roulante, marchant avec le nerf de l'équilibre, comme cela hors de la tête. Pensez-y, marchant comme vous et moi marcherions. Oh, il est magnifique. Maintenant, Paul écrivit l'Épître aux Hébreux. Et dans cet écrit des Hébreux, il l'écrivit. Et avant qu'il n'écrive cette Épître, nous trouvons maintenant, nous allons, c'est une classe de l'école du dimanche, et je vais essayer de regarder, de ne pas faire trop longtemps. Et alors, nous allons avoir des services afin de pouvoir les continuer ce soir, le Seigneur voulant. Maintenant, dans le livre des Hébreux et le reste des épîtres de Paul, qui était Paul? C'était un Hébreu dévoué, un érudit et un grand enseignant de l'Ancien Testament. Et il avait été instruit par un des meilleurs hommes de son temps. Quelqu'un peut-il me dire quel était son nom? Gamaliel, un des plus grands enseignants de son temps. Et Paul s'était assis au pied de Gamaliel. Il y a quelque chose concernant le... Où vous allez? Dans quelle église vous allez? Et quel enseignant vous enseigne? Savez-vous cela? Il y a quelque chose en cela. Aussi, nous devrions chercher le meilleur que nous puissions trouver, afin que nous puissions obtenir le meilleur. Pas parce que c'est sociable et ainsi de suite, mais le vrai enseignement de la Bible. Regardez, une fois quand Israël avait été dans le désert avec son armée, et ils avaient une limite de 7 jours, et ils manquèrent d'eau. Ils étaient prêts de mourir. Ils dirent, « Oh, si il y avait un prophète tout près !» Et un des leurs dit, « Nous en avons un, Élisée. » Il versa de l'eau sur les mains d'Élie, voyez, son associé. En d'autres mots, voici Élisée, qui était associé avec Élie. La parole du Seigneur est avec lui. Vous comprenez? Il avait été enseigné correctement. Et il dit, « Il est ici. » Descendons et consultons-le, car son maître était Élie, et il a l'enseignement d'Élie avec lui. Vous voyez quelle différence cela fait? Certainement, nous voulons être enseignés. Ainsi, Paul avait l'enseignement de Gamaliel, et Gamaliel était ce grand homme qui fit le choix, étant un grand érudit lui-même, quand tous ses troupes commencèrent au début de l'Église, il dit, ne mettons pas nos mains sur cela, frère, si ce n'est pas de Dieu. Cela n'arrivera à rien de toute façon, mais si c'est de Dieu, et si nous luttons contre cela, nous serons en train de lutter contre Dieu. Voyez, il avait eu de bons enseignements, et Paul était arrivé sous cet homme, et il savait que Paul était un grand enseignant. Ainsi, un jour, honnête dans son cœur, persécutant l'Église, descendant pour les arrêter, maintenant prenons simplement, seulement une autre petite phase de Paul, comme nous prenons notre arrière-plan. Quand Judas tomba par transgression, par l'amour de l'argent et l'orgueil de la vie, il déçut de la grâce et il s'en alla à son lieu. Et les disciples dirent, il doit y en avoir 12. Et l'Église, avec toute sa dignité, pour vous montrer ce qu'est l'Église, avec toute sa dignité et toute sa puissance, ils en sont encore à des millions de mille quand ils en sont à leur meilleur. Ils dirent, nous devons en trouver un parmi nous qui prendra la place. Et ils tirèrent au sort Matthias, c'est je crois. Et quand ils le choisirent, ils le mirent avec les 12, avec les 11, ce qui fit 12. Mais il ne fit rien du tout. C'est la seule fois que son nom fut jamais mentionné dans les Écritures. C'était l'Église faisant son choix. Maintenant, ils pensèrent, c'est un gentleman, il n'y a pas de doute, c'est un homme formidable, c'est un érudit, il est intelligent, il est instruit, c'est une personne formidable. Il prendrait la place de Judas et il sera l'un des nôtres. Mais vous savez, quelquefois Dieu fait, à notre opinion, quelquefois il fait des choix les plus bizarres. Maintenant, Dieu, voyant un petit juif au nez crochu, étant aussi plein de tempérament qu'il le pouvait, avec sa bouche de côté, « Oh, je vais descendre et tous les arrêter, je les jetterai en prison, je ferai cela !» Mais c'était le choix de Dieu. Les autres prirent un érudit et un diplomate. C'est le choix de l'Église. Vous voyez, vous ne savez pas qui est à l'autel. Vous ne savez pas à qui vous témoignez. En prison ou bien ailleurs où que ce soit, cela peut ressembler à un pugiliste avec son oreille cassée et ses yeux pelés. Mais vous ne savez pas qui c'est. Tentez simplement votre chance, c'est tout. Donnez-lui la parole. Dieu fait le choix. Et Dieu choisit ce petit juif qui avait un fort caractère. Ou il le choisit plutôt chemin faisant. Je vais descendre, je vais les prendre, je vais leur montrer ce que je peux faire comme cela. Mais Dieu le renversa. Dieu dit, c'est mon choix juste. Cela ne serait-il pas de la folie pour l'Église? Mais voyons, il persécute l'Église. C'est un homme charnel. Mais Dieu savait ce qu'il y avait à l'intérieur de l'homme. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ainsi, Paul eut une expérience. Combien croient que l'expérience vient par la conversion? Certainement. Si ce n'est pas le cas, je doute de la conversion. Une conversion apporte une expérience. Et vous ne pouvez pas l'attribuer à rien maintenant. Quelquefois, cela peut être crié, quelquefois, cela peut être parlé en langue, quelquefois, cela peut être pleurer, quelquefois, cela peut être gémir. Mais vous ne savez pas ce que c'est. Aussi, n'essayez pas de l'attribuer à quelque chose. Parce que c'est prouvé que vous avez tous tort. Vous, méthodistes, et vous, baptistes, et vous, nazaréens, et vous, pentecôtistes. J'ai vu des gens crier aussi fort qu'ils le pouvaient, et voler l'or de leurs dents s'ils le pouvaient. Oui, monsieur. J'ai vu des gens parler en langue, comme verser des poids sur une peau de vache sèche. Et sincèrement, alors qu'ils fiquaient du tabac de l'autre côté de leur bouche, et alors ils vous auraient coupé le cou s'ils le pouvaient. C'est juste. Ainsi ces choses ont. Il n'y a pas d'évidence que vous puissiez le prouver. Seulement par la vie que vit la personne. Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Ainsi, tout est par grâce de Dieu. Il prend la décision. Il met les choses ensemble. Et c'est de la façon que cela est. Ainsi, si votre vie se compare avec les fruits de la Bible, vous avez une conception assez bonne. Si votre esprit est d'accord avec son esprit, que vous, fils et filles de Dieu, vous êtes, les choses mauvaises tombent aussi, et tout devient nouveau, et vous vivez dans l'amour, et vous avez la paix et la grâce, et ainsi de suite. Vous arrivez très près du royaume, alors, parce que la vie qui est en vous produit cette sorte de vie. Vous voyez? Si vous dites, oh, alléluia, j'ai parlé en langue, alléluia, cela ne veut rien dire. Cela ne veut pas dire plus que si vous sortiez et jouiez un air de guitare ou quelque chose. Cela ne veut rien dire. Même si vous parlez en langue, même si vous criez, que vous montiez, que vous descendiez toute l'église, que vous pleuriez des larmes jusqu'à ce que, comme si vous aviez pelé des oignons, cela ne veut rien dire, rien du tout, à moins que chaque jour de votre vie l'appuie exactement. Alors restez avec cela. Maintenant, si vous faites ces choses en plus de cette vie, amen, c'est bien, c'est bon. Mais vous pouvez faire ces choses sans avoir cette vie. Ainsi donc, crier ou quelque chose comme cela n'est pas l'évidence. Jésus dit, par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Et les fruits de l'esprit, ce n'est pas parler en langue. Ce ne sont pas les fruits de l'esprit. Crier n'est pas les fruits de l'esprit. Pleurer n'est pas le fruit de l'esprit. Mais l'amour, joie, paix, patience, bonté, gentillesse, foi, humilité, tempérance, voilà les fruits de l'esprit. Voilà ce que les fruits de l'esprit sont. Très bien. Maintenant, la raison pour laquelle nous avons ces choses, ils aiment faire des organisations, vous voyez, Bien, nous l'aurons, béni soit Dieu. Tous ceux qui croient de la même façon que nous irons par ce chemin. Et tous ceux qui croient comme nous irons par cet autre chemin. Mais Dieu veut que tous aillent par ce chemin. Voyez, droit en haut. Maintenant, Paul, après qu'il ait eu son expérience, alors il pensait que c'était une expérience magnifique. Maintenant, comment voyons cette expérience un petit peu? Paul était en route vers Damas pour arrêter des gens là en bas, car l'évangile avait été répandu là en bas. Évangile veut dire la bonne nouvelle. Et ainsi, ils avaient été répandus là en bas. Et un grand nombre de personnes se levaient, pleines d'amour et de joie, et aimant le Seigneur Jésus. Et cela avait été répandu à cet endroit. Ainsi, Paul reçut quelques lettres du grand prêtre. Il dit, « Je vais descendre, je vais tous les arrêter. » Ainsi, il prit une petite équipe de gardes, des gardes du temple, des soldats, et ils descendirent le long de la route. Et comme ils marchaient le long de la route, et lui simplement, tout le monde sait ce qu'il va faire. Tout à coup, quelque chose arrive. Tout à coup, il y eut une grande lumière devant lui. Une grande lumière. Maintenant, cela brillait comme le soleil. C'est une chose étrange qui arriva. La lumière brillait tellement qu'il, ses yeux sortirent presque de leur orbite. Il tomba sur le sol. Il fut étendu sur le sol. Et il regarda en haut. Il y avait probablement 10 ou 15 hommes avec lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi ces hommes qui a vu la lumière? Non, monsieur. Paul l'a vu. Ces hommes n'étaient pas destinés pour la voir. Ainsi, il y a des gens qui peuvent voir quelque chose et des autres ne le peuvent pas. Voyez? Ainsi, Paul vit cette lumière. Il la vit tant qu'elle le rendit aveugle. Il ne put pas voir pendant plusieurs jours. C'était une telle réalité pour lui. Et il ne put pas voir pour plusieurs. Et plus tard, quand il écrivit ses lettres, ses yeux l'ennuyaient tellement depuis ce moment-là qu'il devait écrire avec de très grandes lettres. Et il dit, « Voyant que je vous ai écrit avec de grandes lettres, il ne pouvait presque plus voir. » Il était en prison et il demanda au Seigneur de le guérir de cela. Et il le consulta 3 fois. « Mais que dit le Seigneur? Ma grâce te suffit, Paul. » Paul dit, « Alors je te glorifierai dans mon infirmité, parce qu'il dit, afin que je ne m'exalte pas à cause de l'abondance de la révélation, il m'a été donné un messager du diable, une épine dans la chair, qui me bourre de coups. » Un moment, cela allait mieux, et ensuite cela recommençait, bourré de coups, cela voulait dire coup sur coup, comme un bateau sur la mer, vous savez, les vagues le bourrent de coups, voyez. Coup après coup. Et ainsi, il allait un peu mieux, et ensuite il l'avait de nouveau. Il allait un peu mieux, et il l'avait de nouveau. Et il dit, « Seigneur, que se passe-t-il? Pourquoi ne sors-tu pas cela de moi? » Il dit, « Ma grâce te suffit, Paul. Continue simplement. » Et ainsi, cela a continué. Il dit, « Maintenant, si j'étais parfait et entièrement parfait, » il dit, alors, en allant de l'avant, oh, je m'enflerai d'orgueil et je dirai, vous voyez, il n'y a rien de mal avec moi, le Seigneur prend soin de moi, frère, alléluia. Alors, vous justifiez vous-même. Dieu doit vous donner un petit quelque chose, de temps en temps, pour en sorte vous humilier un petit peu, vous savez, c'est juste. En quelque sorte, vous faire réaliser que c'est lui le patron. Oh, n'est-il pas merveilleux? Oui, monsieur. Juste gloire. Ainsi, lui, Paul, alors juste après avoir quitté cette grande expérience. Maintenant, si cela avait été quelqu'un d'aujourd'hui, ils auraient dit, oh, béni soit Dieu, alléluia, oh, le Seigneur a fait quelque chose pour moi, gloire à Dieu. Mais pas Paul, il était quelqu'un qui connaissait la Bible. Et cette expérience doit s'accorder avec la parole de Dieu. Oui, monsieur. Si cela n'est pas tenu tout ensemble dans la Bible, pas seulement regarder ici et dire, oh oui, ici c'est juste ici, béni soit Dieu, je l'ai. Ce n'est pas de la façon que Dieu le donne. Cela doit être la Bible entière, tout. Car vous pouvez, les infidèles utilisent la Bible pour leur terrain pour se débattre. Mais ils prendront une petite écriture ici, et ils tourneront ici, ils en prendront une petite là, Ils essayeront de les mettre ensemble, mais ce sont deux sujets différents. Ainsi, vous devez faire que les Écritures soient comparées avec les Écritures. Comme Ésaïe l'a dit dans le 28e chapitre, cela doit être ligne sur ligne, ligne sur ligne, ici un petit peu, là un petit peu, tenez bon à ce qui est bon. Vous voyez? Voilà la façon que cela vient. Ligne sur ligne sur ligne, mot sur mot, écriture sur écriture. Cela doit s'établir tout ensemble. Voilà pourquoi je crois dans ces leçons comme nous les avons maintenant. Ce sont de grandes choses pour l'Église, parce que cela les apporte à un endroit où toutes les écritures se lient ensemble. Et notre expérience doit se lier avec cette écriture. Oh, écoutez ceci, si cela ne le fait pas, c'est faux. Et combien j'ai marché pendant des années, ne sachant pas ce qu'était cette lumière qui frappa Paul. Quand les gens du dehors, avec les écritures, les gens, les prédicateurs, ils ont essayé de me dire, c'est du diable. Tu vas être un diseur de bonne aventure, tu seras un spirit. Ne touche pas à cela, Billy. Il y a quelque chose de faux là-dedans. Ne fais pas cela, garçon, c'est faux, c'est le diable. Mais, mon garçon, tu seras un médium régulier, tu seras un spirit si tu fais cela. Oh, c'est tout du diable, ce n'est pas juste. Mais alors, je ne voulais pas prêcher sur cela, mais comme sur la route allant vers Damas, Paul ne voulait pas prêcher cela. Ainsi, il trouva si c'était juste ou pas. Il descendit en Arabie pour 3 années et il étudia les Écritures. Et quand il revint, il dit, « Maintenant, essayez de le sortir de moi. » Il savait qu'il aurait à faire face aux pharisiens, qu'il aurait à faire face aux sadducéens. Il avait à faire face au monde, et le monde des gentils. Et ainsi, Paul, cette Bible est écrite, ce livre des Hébreux est écrit pour cette raison. Il secoua ces Hébreux, et prenant l'Ancien Testament, et le montrant ici dans le Nouveau Testament, « C'est Dieu, dit-il, le voici, associé à tous les prophètes et toutes choses. » Il commence là au commencement, le premier chapitre. Nous avions Dieu autrefois, très loin autrefois dans les temps anciens, de plusieurs manières, parla au Père par les prophètes. Voilà comment Dieu apporta son message, testé par le Urim Thummim. Mais en ce jour, il nous a parlé par son Fils, Jésus-Christ, testé par sa Bible. Vous y êtes. Ainsi, ces expériences que le monde appelle « Oh, c'est mental, pourquoi personne ?» Quand cet ange apparut, cette lumière là-bas, au-dessus de la rivière, quand je prêchais mon premier réveil ici au coin, et nous baptisions tous ces gens, je crois que frère Freeman, vous étiez peut-être elle, je ne sais pas si vous étiez là ou non. Combien étaient ici quand la lumière apparut sur la rivière? Y en a-t-il des tout anciens ici? Oui, quelques-uns. Quand cela était là-bas, au-dessus de la rivière. Et ils dirent, mais c'est seulement une illusion optique. Beaucoup d'entre nous étions debout, la regardant. Et là, elle descendit. Et alors, des années après, Dieu le prouva par l'œil mécanique d'une caméra. C'est vrai. Oh, c'est de la fiction. Est-ce quelque chose qui... Non, monsieur, nous le prenons juste ici, dans la Bible. Et nous vous le montrons. C'est le même Seigneur Jésus. Il fait la même chose. Son action est la même, sa puissance est la même. Regardez, dimanche passé, ici, là-bas allongé sur mon lit, je n'avais jamais vu l'homme dans ma vie, il vint et il dit, il y a un homme au tabernacle, il est gris, une tête noire grisonnant, il est aveugle, il ne peut pas marcher, il est dans une chaise roulante, un homme à tête noire l'envoya ici, un médecin, docteur, le docteur Ackerman, un homme à tête noire, un homme catholique. Je vis un homme ainsi juste ici, et ainsi dit le Seigneur. Il se leva, et il sortit, voyant et ayant tout. Qu'est-ce qui fit cela? Ici, c'est le même ange, le même qui frappa Paul sur la route descendant à Damas. Il vit dans son église et dans son peuple aujourd'hui. C'est l'écriture, comparée avec l'écriture. C'est de la façon que ça doit être. Oh, nous avons les tièdes, nous irons là-dedans après un moment. Oh, nous avons des choses profondes devant nous, si nous pouvons seulement aller droit dedans aujourd'hui et ce soir. Maintenant, cela commence seulement de venir dans les eaux profondes. Vous savez, quand j'étais un petit garçon,
Nous avions un étang derrière cet endroit, et j'allais là-bas. Et nous tous, des petits gamins, nous allions tout nus, petits environ 6 ou 7 ans. Et nous, l'eau était à peu près profonde comme cela, pas plus haut qu'une souille à porc. Et j'avais une caisse de savon là-bas, et je montrais que je savais plonger. Je tenais mon nez et plouf, allant comme cela, mon petit ventre voulait toucher la boue, vous savez, et cela giclait de tous les côtés. Et je dis à mon papa que je savais nager. Il me ramena là un jour et il me dit, je veux te voir nager. Je sautais de là, vous savez, j'enlevais mes habits dans un petit fourré à sauterelles, je courus, je sautais dans l'eau, et tout a giclé, la boue volant de tous côtés. Papa était assis au bord du canal. Il s'assit là, il me regarda pendant quelques minutes et il me dit, sors de ce trou d'eau et va à la maison prendre un bain. Vous voyez? Mais c'est à peu près la même chose pour certains d'entre nous qui s'appellent chrétiens. On rentre dans la boue. C'est juste. Aussi longtemps que vous êtes ancré, je suis un méthodiste, je suis un pentecôtiste, je suis un presbytérien, j'ai les dents, je l'ai. Vous rampez dans la boue. Un jour, j'étais avec mon oncle. Je continuais de répéter. Il avait à peu près 15-16 ans. Nous étions sur la rivière. Je disais, oncle Art, je sais nager. Et j'étais assis à l'arrière du bateau, vous savez, je me sentais bien en sécurité. Il prit simplement la rame et il me poussa par-dessus bord, dans à peu près 10 pieds d'eau. Ah, c'était différent. Tous les éclaboussements et les cris que vous ayez jamais entendus dans votre vie. Un jour, vous serez poussé dehors. Vous avez le meilleur temps de savoir où vous en êtes. Oui, monsieur, si vous le connaissez, vous sentirez, vous aurez intérêt à vraiment le connaître, c'est juste. Mais maintenant, nous allons dans des eaux profondes qui vous noieront, si vous n'êtes pas un bon chrétien bien dodu. Remarquez la parole. Paul, premièrement, découvrit qu'il retourna à l'Ancien Testament. Et il trouva ceci. Il vit cette expérience de son absolu. Maintenant, qu'était-ce ce qui me frappa? C'était une lumière. Une grande lumière, se tenant là, brillant comme le soleil, se tenant devant son visage, et il dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit, « Seigneur, qui es-tu que je persécute ?» Il dit, « Je suis Jésus. » Je pensais qu'il était un homme avec des mains pleines de cicatrices, et il prétend qu'il apparaît dans des réunions maintenant avec des cicatrices de clous dans ses mains et sur sa tête. Non, non, ce corps, pas dans ce corps, vous voyez. Maintenant, il est une lumière. Saul, quand il était ici sur la terre, il dit, je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Il était l'ange qui conduisit les enfants d'Israël dans cette lumière à travers le désert. Il retourna de nouveau à cette même lumière. Et Paul le vit dans l'Ancien Testament. Il dit, je suis Jésus, l'ange de l'Alliance. Et il devint chair pour nous racheter. Il ne prit pas la forme des anges. Nous avons trouvé cela dans les chapitres précédents, notre étude. Il ne prit pas la nature des anges, mais il était la semence d'Abraham, afin qu'il soit connu que l'homme puisse voir Dieu. Amen. Maintenant, il dit, je retourne de nouveau à cela. Et quand Paul vit cela, il dit, certainement, c'était lui, c'était lui. Pierre eut une expérience, une nuit, alors qu'il priait. Cette même lumière vint dans le bâtiment, ouvrit les portes devant lui, sortit dans les rues, et Pierre pensait qu'il rêvait. Il avait une telle onction. Il ne savait pas ce qui se passait. Il dit, est-ce que je viens de me réveiller? Mais je suis ici, dehors, dans la rue. Et il alla dans la maison de Jean-Marc. La petite fille ouvrit la porte, quelques petites dames là. Ils étaient dans une réunion de prière. Et, oh, dit-elle, voici Pierre juste maintenant. Vous priez pour lui pour qu'il sorte de prison. « Le Seigneur l'a délivré. »« Oh » dirent-ils, « va donc. »« Oh Seigneur, délivre-le. » Mais elle dit, « Il est là, il frappe à la porte. » Pierre continue à frapper, « Laissez-moi entrer. »« Oh » dit-elle, « c'est Pierre. » Et en ces jours-là, ils avaient encore une petite lucarne, un petit couvercle que vous pouviez soulever et ainsi regarder dehors. Vous voyez, avant de laisser entrer votre invité, vous deviez savoir qui frappe à la porte. Parce qu'ils avaient des voleurs et vous ouvriez la porte, ils vous auraient peut-être tué. Ils ouvrirent la petite porte. Elle dit, c'est Pierre. Ils disent, oh, il est mort. C'est son ange qui est là debout. Vous voyez, Il est dans son corps glorifié, vous savez, cette théophanie. Rappelez-vous, comme nous l'avons pris, ce grand diamant, et comment il refléta la lumière, comment il retourna par là. Ce tabernacle terrestre se dissout, nous en avons déjà un autre qui nous attend. Et il croyait que Pierre était mort, et que ce vieux corps était tombé, et qu'il l'ensevelirait dans quelques jours. Il était entré dans son ange ou son glorie, pas son corps glorifié, mais dans sa théophanie, le corps qui est déjà prêt. Cela ne pourrait pas faire trembler vos mains. Il n'a pas de main pour trembler comme cela, mais c'est l'image d'un homme. Il descendit, il va frapper à la porte. Elle dit, « Non, c'est Pierre, il est là, debout !» Il ouvrit la porte et entra, et là il était. Maintenant, Pierre avait été délivré par cette lumière. Maintenant, de la même façon que, auparavant, que Paul, dans les premiers âges de l'Église, vit cette lumière de Dieu qui brilla sur Paul, la même chose est descendue. Maintenant, les gens peuvent dire n'importe quoi, cela ne le rend pas juste, mais quand Dieu prouve quelque chose, l'œuvre de cela le prouve. Alors la caméra le prouve, et tout ce que le Seigneur a fait a été absolument, infailliblement prouvé que c'était Dieu, par les Écritures, par son onction, par l'expérience, mais ils ne veulent pas écouter. Regardez ici dans ce tabernacle. Maintenant, rappelez-vous, vous savez ceci, nous ne désirons pas avidement des foules, nous n'avons pas de place pour les mettre de toute manière, mais regardez une réunion de ce genre, où nous venons ensemble pour ceci. Cela devrait attirer des villes perdues. Mais ils sont morts. Ils sont absolument morts. Ils ont des yeux et ils ne peuvent pas voir. Vous dites, vous, pourquoi, frère Branham, pourquoi ne vont-ils pas chez un docteur pour que leurs yeux soient soignés? Ils ne peuvent pas arranger cette sorte de vue. Jésus a dit, si vous m'aviez connu, vous auriez connu mon jour. Il dit, vous, parisiens aveugles, vous pouvez discerner les signes des cieux, mais les signes du temps, vous ne pouvez pas les discerner. Est-ce que cela passe au-dessus de votre tête? Regardez aux signes dans lesquels nous vivons, ici, maintenant. Ce n'est pas quelque... Moi-même, je suis simplement un homme, même pas un prédicateur qui sait parler. Ce n'est pas d'éducation, ce que le monde appelle un prédicateur. Et nous sommes seulement de pauvres gens. Regardez le bâtiment dans lequel nous sommes. Regardez aux cathédrales ce matin. Mais regardez où est Dieu. Voilà la chose. Ainsi, Moab se tenait là, dans toute sa splendeur et sa beauté. Mais Israël était dans des tentes. Mais où était Dieu? Il y avait une bande de petits saints dansant là en bas, qui faisaient tout ce qui était faux. Mais Balaam, leur évêque, manqua de voir ce rocher frappé, et le serpent des reins, cette colonne de feu. Ses yeux étaient aveugles. Il ne pouvait pas le voir. Ils imaginent seulement cela. Mais il était là. Béni soit Dieu. Oh, il est ici. Et il fait les mêmes choses qu'il a faites. Et il veut, nous comparons les Écritures avec les Écritures. Dieu ne s'est jamais peint quelque chose de grand sur la terre. Mais il est toujours demeuré parmi les gens simples et humbles. Il est là ce matin. Il fait la même chose. L'Écriture le revendique, la caméra le revendique. Maintenant, voilà la raison pour laquelle je me réfère à cette image. Ce n'est pas parce que je suis là, je suis seulement un pécheur, sauvé par sa grâce, comme vous l'êtes. Mais ce que j'essaie de dire, c'est sa présence parmi nous. C'est la chose principale. Bien, s'il m'a fait un Élie incarné, si vous n'avez pas la foi pour le reconnaître, cela ne vous ferait aucun bien. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. C'est la raison pour laquelle ici, dans cette ville aujourd'hui, pourquoi je pourrais commencer un réveil ici, dans quelque grand bâtiment ou quelque chose, mais vous n'auriez pas beaucoup de gens pour y croire. Ils ne veulent simplement pas, ils ne peuvent pas, leur jour est passé. La même leçon ce matin en Afrique produirait probablement 10 000, au moins 10 000 âmes pour Christ. Où il pourrait y avoir un pécheur assis ici ce matin ou quelque chose, quelqu'un qui recule. La plupart sont simplement peignés de part en part, jusqu'à ce que ce soit simplement fini, c'est tout. Mais ce que nous essayons de dire, c'est que les Écritures doivent être comparées avec les Écritures. Maintenant, Cela n'a aucune importance combien grande est l'expérience. Si elle n'est pas comparée avec les Écritures, c'est faux. L'urim tumim. Qu'importe combien le prophète était bon, s'il parlait que ses lumières ne s'allumaient pas sur l'urim tumim, c'était faux. Combien bon le rêve semblait être si cela ne s'allumait pas sur l'urim tumim, c'était faux. Et quand ce sacerdoce arrêta, Dieu donna sa Bible. Paul dit, si un ange du ciel venait, Galates 1:8, et vous prêchez un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. L'ange du ciel, il dit à Jean le Révélateur, qui était Dieu lui-même, moi Jésus, j'envoie mon ange pour revendiquer ou pour montrer ces choses. Il dit, si un homme y ajoute un mot ou y enlève un mot, cela sera retiré du livre de vie pour lui. C'est cela, la Bible. Ainsi, ces expériences et ces choses qui arrivent ici, si elles n'étaient pas revendiquées par la parole de Dieu, cela serait faux. Cela me serait égal, quoi qu'il arrive. Cela serait faux. Ainsi, c'est scripturaire. Absolument la vérité. Oh, je suis si content d'être un membre du grand corps de Christ. Maintenant, avançons maintenant. Nous arrivons à la leçon. Maintenant, nous sommes arrêtés ici où il est dit. Voyant que nous sommes limités maintenant, je m'excuse. J'étais en train de mentionner le 12e chapitre. Je l'ai lu, mais je ne l'ai pas étudié. Frère Norman reste dans ma maison là-bas et il sait que je suis seulement revenu hier. Et les frères savent là en bas que je viens d'arriver. Le seul moment que j'ai eu pour lire les Écritures était quand j'étais assis ici il y a quelques minutes, c'est juste. Je ne l'ai pas étudié. J'attends seulement pour le Saint-Esprit qui me le donne, juste comme il le veut. Il sait où sont les personnes qui doivent l'avoir. Ainsi, si j'ai arrangé quelque chose dans mon esprit que je vais dire, alors c'est faux. Mais si je le laisse seulement faire, il le prendra directement à l'endroit où cela doit aller. Vous voyez ? Ne méditez aucune pensée sur ce que vous direz, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est votre Père qui demeure en vous. C'est lui qui parle. Maintenant, le dernier chapitre, le chapitre précédent. Nous avons entendu que comment pouvons-nous échapper si nous négligeons un si grand salut qui nous a d'abord été prêché par le Seigneur Jésus et ensuite par ceux qui l'ont entendu. La même chose que Jésus fit pour montrer, ces mêmes choses arrivent ici. Le même ange de Dieu, les mêmes œuvres, la même évidence, toutes les mêmes choses, tout ensemble, le même évangile, exactement avec la parole. Et cela a été enseigné par le Seigneur, puis confirmé par ses disciples que nous avons entendus, Paul étant un de ceux-là. Comment pourrons-nous échapper si nous négligeons un si grand salut? Maintenant, Paul disait cela à un auditoire hébreu. Maintenant, ils n'avaient pas d'enregistreur, comme nous en avons aujourd'hui. Mais ils avaient des scribes qui étaient assis là, et ils inscrivaient au fur et à mesure que Paul prêchait. Et voilà ce que cela est juste ici. Nous le recevons par des enregistreurs, et ces bandes vont dans le monde entier, vous voyez, pour montrer que c'est la vérité. Notre religion n'est pas vaine. C'est absolument Jésus-Christ ressuscité. La même chose. Maintenant, nous ne devons pas le négliger. Maintenant, ne sortez pas simplement de l'église aujourd'hui en disant, « Oh bien, j'ai pas mal apprécié de descendre là en bas. J'aime les chants. Les gens sont sympathiques dans cette petite vieille église. » Ne faites pas cela. Laissez votre cœur s'enflammer. Ici, je dois faire quelque chose pour cela. Je dois sortir. Je vais voir si je peux faire quelque chose pour le salut de quelqu'un. Et ne sortez pas en disant, béni soit Dieu, si vous ne vous repentez pas, vous allez tous périr. Non, allez-y doucement. Soyez aussi rusé qu'un serpent et aussi pur qu'une colombe. Vous voyez, c'est la façon d'y aller. Approchez la personne. S'ils élèvent des poulets, alors parlez-lui de poulets pour un petit moment. Vous voyez. Et alors, la première chose que vous saurez, vous parlerez du Seigneur. Si c'est un fermier, parlez-lui de sa ferme. S'il vend des automobiles, parlez-lui de ses automobiles pendant un moment. Quelle belle voiture vous avez, et ainsi de suite, vous voyez. Jusqu'à ce que vous saisissiez l'esprit. Quand le Père dit, maintenant, c'est le moment de l'approcher quant à son âme. Vous pouvez le changer, vous voyez. C'est une belle automobile. Vous savez, les transports de nos jours sont devenus quelque chose d'important. Oh, comme la nation a été rapprochée de part et d'autre. Les vies de notre nation sont devenues toutes près l'une de l'autre. Les amis et les mamans peuvent se visiter l'un l'autre. Vous savez, c'est une chose magnifique d'avoir des automobiles comme vous vendez. Oui, monsieur, cela l'est certainement. Vous savez, tirant sur son cigare ou quelque chose comme cela. Oui, ce sont les meilleures voitures. Avez-vous déjà pensé ce que ceux du bon vieux temps auraient pensé s'ils avaient vu quelque chose comme cela? Ainsi, continuez simplement comme cela, vous savez. Après un moment, dites, oui, certainement. Vous savez la chose que cela fait aussi? Cela apporte, comme nous avons, comme dans les réveils, les gens peuvent traverser le pays entièrement et rapidement pour une campagne de réveil. Vous voyez? Alors vous ouvrez le chemin tout le temps, vous savez. Maintenant, si vous sentez que quelque chose bloque le chemin, arrêtez juste et passez ici. Comme un docteur de mes amis dit à Phoenix, il dit, Seigneur, remplis ma bouche avec de bonnes paroles et donne-moi un coup de coude quand j'en ai assez dit. Vous voyez? Donne-moi un coup de coude quand j'en ai assez dit. Maintenant, observez maintenant. Nous allons commencer depuis le 15e chapitre ou le 15e verset du 3e chapitre. C'est très près maintenant. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Maintenant, observez Paul parlant ici. Maintenant, il est dit, aujourd'hui, après si longtemps, nous irons dans ça dans un petit moment. Ce aujourd'hui, un si longtemps, cela vient dans le prochain chapitre, après un si longtemps, il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, quand ils provoquèrent Dieu. Maintenant, lisons le verset suivant. Quels furent, en effet, ceux qui provoquèrent Dieu après l'avoir entendu? Maintenant, de quoi parle-t-il? L'Évangile. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui fut-il indigné pendant 40 ans? Sinon, contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Arrêtons-nous ici pour une minute. La provocation. Quand ils provoquèrent. Maintenant, que fit Dieu? Maintenant, Paul essaye de leur parler. Qu'est-ce qui les conduisit hors d'Égypte? Était-ce Moïse? Non! Moïse était l'instrument charnel. Maintenant, nous avons un arrière-plan ici. Nous voulons être redressés maintenant. Quand nous toucherons ce point là-bas dans quelques minutes, vous le verrez. Maintenant, Dieu avait son peuple dans un repos troublé. Ils étaient là-bas en Égypte. Ils étaient en dehors de leur juste position. Ils y étaient en dehors de leur patrie. Ils étaient des étrangers et des pèlerins. Et Dieu allait les amener de cet endroit d'habitation en Égypte jusque dans leur patrie. C'est un type d'aujourd'hui. Nous sommes incertains. Ici, ils ne font pas long. De petits garçons aux mains potelées jouant aux billes, des petites filles avec des poupées jouant. La première chose que vous avez des cheveux gris et vous êtes tout ridé. Il y a quelque chose qui ne va pas ici-bas. Ce n'est pas notre maison. Nous sommes au mauvais endroit. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes des pèlerins, des étrangers. Quelque chose s'est passé. Une petite dame m'a dit ce matin dans la chambre comment les gens riaient d'elle quelquefois. Je dis, mais ma chère sœur, vous n'êtes pas de ces gens-là. Nous sommes des gens différents. Ma petite fille dit, papa, telle et telle petite fille ont fait telle et telle chose. Elles ont fait cela. Et je dis, mais regarde ma chérie, elles avaient des disques d'Elvis Presley. Je dis, je ne les voudrais pas dans ma maison. Elle dit, mais papa, ce sont de gentilles petites filles. Je dis, peut-être que oui, je n'ai rien à dire contre cela. Mais il y a une chose, nous sommes différents. Nous sommes différents. Pas que nous voulions être différents. Mais l'esprit qui est en nous, il est sorti de tout cela. Vous êtes d'un autre monde. Quand je vais en Afrique, je ne peux pas m'ajuster à leur façon de vivre. Ils ne portent pas d'habits, ils sont nus. Et ils prennent quelque chose qui est pourri, plein de verre, et ils le mangent. Cela ne leur fait rien, vous voyez, c'est différent. Vous savez, une fois, nous étions tous comme cela. Mais la civilisation nous a sortis de là, nous a rendus différents. Et la conversion a doublé cela par millions. Nous ne voulons plus des choses pourries du monde.
Christ nous a fait devenir des chrétiens, comme la civilisation nous a rendus propres. Et notez pas seulement cela, mais nous professons que nous sommes des pèlerins et des étrangers. Nous ne sommes pas du monde. Alors, vous ne voulez rien avoir à faire avec ce monde. Ces choses sont passées. Maintenant, Israël était là-bas en Égypte. Ils n'étaient pas des Égyptiens. Égyptiens. C'était une disgrâce pour un Égyptien de mettre ses mains sur un mouton et Israël était des bergers. Et comme cela devait avoir touché Moïse, après toute l'indignité d'être un Égyptien, un éleveur de vaches, avez-vous remarqué ce que Pharaon a dit à Joseph et ainsi de suite? C'est une abomination, il dit. Ton peuple est un peuple de bergers. Un Égyptien ne pouvait même pas mettre ses mains sur une brebis, sur un berger. C'est un peuple différent. Et c'est la même chose pour les chrétiens aujourd'hui. Quand quelqu'un est nouveau, ce n'est pas, c'est sale pour lui de s'associer avec ces gens qui boivent et disent des plaisanteries sales et ces femmes nues et toutes. C'est de la saleté. Et, oh, béni soit le Seigneur, nous sommes des pèlerins ici-bas. Nous sommes des étrangers ici. L'esprit a été converti. Nous cherchons une cité où les femmes ne mettent pas de shorts. Nous cherchons une ville où il n'y a pas de taverne à bière. Nous cherchons une cité où la justice demeure. Ainsi, nous sommes des pèlerins. Ainsi, Dieu descendit dans un grand halo de feu, comme une auréole. Il descendit dans un buisson. Il commença à se révéler lui-même à Moïse premièrement. Moïse dit, vous savez, comme nous avons la leçon l'autre soir, quand Jésus était sur la terre, il dit, bien, avant que Moïse était, je suis. C'était Jésus dans le buisson ardent, dans la colonne de feu. C'est Jésus aujourd'hui, le même. Et il se révèle dans une colonne de feu. Et Moïse eut l'expérience. Il descendit en Égypte, il prêcha l'évangile, la bonne nouvelle. Et des signes et des miracles le suivirent. Vous comprenez? La même chose aujourd'hui. Pas seulement cela, mais quand les Hébreux sortirent, ils marchaient dans la lumière, ils étaient guidés par la même colonne de feu. Et la Bible dit que ne tentez pas Dieu. Regardez ceci, laissez-moi le lire. Alors qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, sa voix parlant à votre cœur, comme lors de la provocation, quand ils le provoquaient. Écoutez, car quelques-uns le provoquèrent après l'avoir entendu. Combien savent que les Israélites provoquèrent Dieu avec leur incrédulité? Ils murmurèrent. Ils complètement, Dieu descendit directement là en bas, et quand il sortit, ils eurent tout de suite des problèmes. Cette colonne de feu était au-dessus d'eux. Je ne sais pas s'ils la virent tous ou non. Du moins, Moïse la vit. Elle était au-dessus d'eux et ils l'observèrent. Et quand ils descendirent, dites comme s'ils ne l'avaient pas vue. Je ne sais pas s'ils l'ont vue ou pas. Elle vint devant eux. La Bible dit qu'elle était là. Elle dit, l'étoile avança devant les mages. Personne ne la vit, mais les mages. Elle passa au-dessus de tous les observatoires. Ils connaissaient l'heure par les étoiles. Personne ne la vit, mais les mages. Elle était là pour qu'ils la voient. Et les mages étaient ceux pour qui l'étoile avait été envoyée. Cette colonne de feu était au-dessus d'eux. Je ne sais pas s'ils la virent tous ou non. Du moins, Moïse la vit. Elle était au-dessus d'eux et ils l'observèrent. Et quand ils descendirent, dites comme s'ils ne l'avaient pas vue. Je ne sais pas s'ils l'ont vue ou pas. Elle vint devant eux. La Bible dit qu'elle était là. Elle dit, l'étoile avança devant les mages. Personne ne la vit, mais les mages. Elle passa au-dessus de tous les observatoires. Ils connaissaient l'heure par les étoiles. Personne ne la vit, mais les mages. Elle était là pour qu'ils la voient. Et les mages étaient ceux pour qui l'étoile avait été envoyée. Et la colonne de feu fut envoyée à Moïse. Et Moïse fut envoyé aux enfants d'Israël. Et ils étaient supposés suivre Moïse. Ils pouvaient voir Moïse, et Moïse vit la lumière. Et ils allèrent là, ceux qui croyaient. Et comme ils sortaient, ils arrivèrent à la mer Rouge. Et ils ne virent plus de signes de miracles. Et les choses se passaient comme quand ils étaient encore dans la vieille terre d'Égypte. Mais quand ils sortirent de là pour leur voyage, juste convertis et sortis de là, alors la première chose que vous réalisez,
qu'ils eurent des troubles. Dieu aime vous apporter des conflits. Il aime étaler des difficultés et voir ce que vous voulez en faire. Ainsi, il s'arrêta à la mer Rouge et la première chose que vous voyez, il les conduisit juste là, dans cet endroit, et alors il envoya Pharaon après eux. Vous voyez comment Dieu aime le faire? Il aime déployer sa puissance et son amour. Il est Dieu et il aime vraiment vous montrer qui il est. Amen. Et le problème aujourd'hui, c'est que les gens disent « Oh, ces temps sont passés !» Non. Comment Dieu peut se déployer quand on vous apprend de pareilles choses? Mais Dieu aime se manifester. Voici les enfants d'Israël marchant dans la lumière, Moïse allant au-devant d'eux. Ils étaient là. « Viens, c'est le chemin. Dieu appelle, nous sortons, nous allons dans la terre promise. Oh, alléluia !» Ils étaient tous là, criant et sautant et ayant du bon temps, vous savez. Et la première chose que vous savez aussi, ils regardèrent en arrière et ils dirent, « Oh, qu'est-ce que c'est que cette poussière ?» Un monta sur une colline et dit, « Oh, hélas, hélas, c'est l'armée de Pharaon !» Dieu dit, « De quoi avez-vous peur? Avez-vous cru ce que j'ai fait là en bas? Pourquoi êtes-vous si tourmentés? Pourquoi me fâchez-vous » Et quand ils arrivèrent là, Moïse descendit, il intercéda auprès de Dieu. Dieu ouvrit simplement la mer Rouge et ils la traversèrent. Il engloutit l'ennemi. C'est de la manière que Dieu le fait. Ne prenez pas peur. Ne devenez pas tout excités. Ne soyez pas frustrés, car vous provoquez Dieu. Alors que fit-il? Il semble que, bien, nous avons eu une grande épreuve. Béni soit Dieu. Nous avons passé par-dessus. Nous n'en aurons plus. Nous sommes en route vers la terre promise. Et il les conduisit directement dans le désert où il n'y a point d'eau. Voyez-vous? Pouvez-vous vous imaginer cela? Dieu avec son peuple sanctifié, saint, il les conduisit directement dans cette trappe. Alors il les sortit de cette trappe et il les laissa justement là où il n'y a pas d'eau. Alors qu'il aurait pu les amener où il y a de l'eau. Il aurait pu faire une rivière tout au long du chemin s'il l'avait voulu. Il aurait pu briser toutes les montagnes de joie d'où jaillisse l'eau 50 mètres dans les airs s'il l'avait voulu. Certainement, il le pouvait. Mais s'il avait fait cela, aurait été trop facile. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Pourquoi Dieu laissa-t-il ces choses arriver, frère Branham? Pourquoi Dieu? Dieu fait cela. Laissez-le dans la paix. Avancez simplement. C'est l'affaire de Dieu. Les empreintes de pas des justes sont ordonnées par le Seigneur. Oui, monsieur. Et quelle différence cela fait-il? J'ai perdu tout mon argent, frère Branham. Eh bien, béni soit Dieu de toute façon. Oh, j'ai fait ceci et ceci est arrivé. La tempête a soufflé sur ma maison. Béni soit Dieu de toute façon. Le Seigneur donne, le Seigneur reprend. Béni soit le nom du Seigneur. Continuez simplement de marcher. C'est toute la gloire de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Quelques-uns à travers l'eau, quelques-uns à travers le déluge, quelques-uns à travers de dures épreuves, mais tous à travers le sang. C'est la façon qui nous conduit. C'est juste. Oh, j'ai simplement envie de m'arrêter et de crier. Voilà la façon qu'il conduit ses chers enfants. Oh, pouvez-vous seulement sentir? Maintenant, je ne suis pas un psychologue, mais pouvez-vous simplement sentir ce ravissant esprit baignant saintement maintenant sur le bâtiment? Que se passerait-il maintenant si nos yeux s'ouvraient et si nous regardions ce qui se trouve tout autour des côtés de ces murs et en haut et en bas de ces travées? Oh, Élie, un matin, quand ce garçon était aussi aveugle qu'il le pouvait, il dit, regarde ces Syriens là en bas. Il dit, mais il y en a plus qui sont de notre côté. Il dit, je ne vois personne. Il dit, Seigneur, ouvre les yeux de ce garçon. Alors il regarda autour de ce vieux prophète et tout autour, ces montagnes étaient en feu, des chevaux de feu, des chariots de feu. Alors il fut convaincu. Il dit, nous sortirons et nous les aveuglerons. Ils avaient leur vue aussi parfaite qu'ils l'aient jamais eue, mais ils étaient aveugles pour lui. Cherchez-vous tous Élisée? Ils dirent, oui monsieur, venez, je vais vous montrer où il est. Et c'était lui qui les conduisait. Et ils ne le savaient même pas. Et c'est la même chose aujourd'hui. Christ est ici. Le Saint-Esprit est ici. faisons les mêmes choses qu'il a toujours faites. Et le monde est aveugle à cela. Ils ne le savent pas. Oh, je ne sais pas concernant cela. Mon pasteur, oh, pauvres gens décrépits. Voyez-vous ce que je veux dire? Ils sont aveugles sur cela. Et ils ne le savent même pas. Dieu conduit. Maintenant, ils viennent dans le désert du péché. Il n'y avait pas d'eau là. Mais Dieu y avait déjà pourvu. Oh, et ils trouvèrent une flaque d'eau. Ils dirent, c'est cela. Et ils ne pouvaient même pas y goûter. Oh, c'était affreux. C'était pire que 100% de soufre. Vous voyez, juste comme des œufs pourris. Vous savez, oh, c'est affreux. C'était du poison. Maintenant, cela a été appelé le désert du péché. Il y avait plusieurs palmiers qui poussaient là. Et la source où ces palmiers poussaient. Alors Moïse dit, non. Mais Dieu dit, pourquoi est-ce que vous, pourquoi est-ce qu'il, pourquoi me provoque-t-il? Bien, si j'ai fait cela là-bas, ne puis-je pas faire quelque chose concernant cette situation? S'il vous a sorti d'une période de maladie, ne peut-il pas vous en sortir d'une autre? S'il vous a sorti d'un problème, ne peut-il pas vous sortir d'un autre? Béni soit Dieu, il m'a sorti du péché, alors il peut me sortir de la tombe. Il est Dieu, quelle différence la fait-il? Avancez seulement, tenez vos yeux sur lui. Il dit, si j'ai refermé la mer Rouge et si j'ai noyé ces Égyptiens, ne puis-je pas faire quelque chose concernant cette eau? Pourquoi me mettez-vous en colère? Oh, votre incrédulité! Vous avez provoqué ma colère à cause de votre incrédulité. Maintenant, le mot employé ici est péché, provoqué. Ils l'ont fait parce qu'ils ne croyaient pas. Ils ne commencèrent pas à jouer au dé ou quelque chose comme cela. Ils n'allèrent pas avec la femme d'un autre. Ils n'allèrent pas dire des mensonges. Ce n'était pas ce qu'ils faisaient. Mais ce n'est pas là le péché pour commencer. Vivre dans l'adultère n'est pas le péché. Fumer, chiquer, boire, jouer, jurer, blasphémer, et tout cela, ce n'est pas le péché. Ce sont les attributs de l'incrédulité. Vous faites cela parce que vous êtes un incrédule. Si vous êtes un croyant, vous ne faites pas cela. Voilà la raison pour laquelle Jésus a dit, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Pas celui qui dit qu'il croit, mais celui qui croit vraiment, c'est cela. Cela chasse toutes vos évidences initiales. Vous voyez? Vous y voilà. Pas celui qui écoute ma parole et qui crie. Pas celui qui écoute ma parole et qui parle en langue. Pas celui qui écoute ma parole et qui a du sang sur ses mains ou sur son visage ou n'importe quoi d'autre. Ce n'est pas cela. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne passera jamais par le jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Qu'est-ce que le péché? L'incrédulité. Un petit quelque chose peut se montrer, au lieu d'aller directement aux Écritures, et trouver si cela est juste ou pas. Ah, vous dites, voyez, là vous continuez. Je continuerai d'être un presbytérien comme je suis. Voyez, allez-y, aveugle, et vous provoquez Dieu. Quand Dieu fait quelque chose, il s'attend à ce que la nation le saisisse. Mais au lieu de cela, vous savez, oh bien, je ne sais pas ce qu'il en est à ce sujet. Vous voyez? Il s'attend à ce que les gens le reçoivent. Si vous êtes assez intéressé, mettez-vous devant les Écritures. Parcourez-les et cherchez-les en arrière, en avant. Et voyez si cela arrive. Si c'est prédit que cela arriverait, et ainsi de suite, alors vous voulez le comprendre. Amen. Maintenant, notez. Pendant qu'il a dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Quand Dieu a été provoqué avec eux, vous savez. Car il y en a qui, après avoir entendu l'évangile, Moïse prêcha cet évangile, provoquèrent. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Combien savent? Combien de gens furent sauvés du groupe original qui est sorti? Combien? L'assemblée répond, deux, note de l'éditeur. Deux, c'est juste! Et combien savent leur nom? L'assemblée répond, Caleb et Josué, note de l'éditeur. C'est juste! Caleb et Josué, les deux seuls, sur 2 millions et quelque chose. Écoutez ceci. Mais il, le 17e verset maintenant. Et contre qui fut-il indigné 40 ans durant, à cause de leur incrédulité, sinon contre ceux qui péchèrent, qui ne crurent pas. Prenez le dictionnaire et découvrez ce que péché veut dire. Prenez le dictionnaire biblique. C'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le péché. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Dans Jean chapitre 4, vous voyez, déjà condamné, dont les carcasses tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Votre incrédulité. Oh, je ne finirai jamais mon chapitre. Mais regardez, que se passe-t-il avec cette nation aujourd'hui? Des signes et des miracles se sont produits à travers toute cette nation. Et que font-ils? Ils lui tournent le dos continuellement. Et il dit, j'ai juré que je ne les laisserai pas entrer dans le pays où ils se rendaient. Que se passe-t-il aujourd'hui avec ces grandes églises? Leur incrédulité a provoqué Dieu. Alléluia! De ses pierres, il est capable de susciter des enfants Abraham. Il essaya de leur donner l'évangile. Ils endurcirent leur cœur. Ils se firent un culte. Ils firent de petites dénominations. Eh, nous croyons cela et rien d'autre. Et Dieu ne pouvait pas y entrer. Où sont-ils aujourd'hui? Assis sur la voie secondaire. Mais le petit groupe de Dieu fidèle continue d'avancer avec des signes et des miracles. Il les fait passer par l'épreuve. Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être testé, éprouvé, formé comme un enfant. Et la première chose qui arrive, oh, eh bien peut-être qu'il n'y a rien de cela de toute façon. Alors vous êtes un enfant illégitime et pas un enfant de Dieu. Car un enfant de Dieu est la semence d'Abraham qui appela ces choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Dieu l'a dit et il continua simplement à avancer. Amen. Qu'importe ce qui était dit ou n'importe quoi de différent, ils continuèrent à avancer de toute façon. Dieu l'a dit. 25 ans il attendit pour cet enfant. Qu'importe combien c'était contraire, il se sépara de ses incrédules. Amen. Afin qu'il puisse croire. Oh, je me sens religieux. Pensez-y. Vous devez vous séparer de ces dogmes et du monde. Ah, ces jours des miracles sont passés. Il n'y a rien du tout comme cela. C'est du fanatisme. Séparez-vous-en. La Bible dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Et je vous recevrai. Comme c'est merveilleux. Je vous recevrai. Après que vous soyez séparés, vous serez mes enfants et je serai votre Dieu. Séparez-vous. Ne vous accouplez pas avec les incrédules. C'est juste. Jeune homme, vous mariant une certaine fille qui ne croit pas, ou une certaine fille mariant un garçon qui ne croit pas, vous ne devriez pas faire cela. Cela m'est égal combien il est beau ou combien elle est belle, et ses grands yeux qu'elle a, un de ces jours, ils se flétriront. Mes frères, votre âme vivra pour toujours. Faites attention à ce que vous faites. Elle n'est pas une véritable croyante, ou il n'est pas un véritable croyant. Ne vous mettez pas sous un joug comme cela. Éloignez-vous de cela. Cela vous causera des troubles tout le long de votre route. Maintenant écoutez, 17e verset. Et contre qui fut-il indigné 40 ans durant, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Ils commençaient, mais ils virent les miracles, mais ils n'arrivèrent jamais dans la terre promise. Seulement un nombre sélectionné de 2 entra dans la terre promise. Maintenant, que fait Paul? Il parle aux chrétiens maintenant. Ne laissez pas ce même évangile qui fut prêché là-bas avec des signes et des miracles, et la colonne de feu les conduisant, et quand ces choses arrivent de nouveau, ne tombez pas dans le chemin secondaire de l'incrédulité. Allez dans le doute, car leurs carcasses tombèrent dans le désert. Maintenant, nous avançons rapidement maintenant. Regardez attentivement. Mais à ceux qui ne vivent pas, ainsi nous voyons qu'ils n'entrèrent pas à cause de l'incrédulité. Voyez-vous, il l'appelle péché une fois, il l'appelle incrédulité la fois suivante. L'incrédulité, c'est le péché. Ils n'entrèrent pas à cause de leur péché. Ils virent ce prophète Moïse, ils virent ce qu'il fit, virent ce qu'il dit. Ils étaient toutes les fois, et c'était toutes les fois la vérité. Ils avancèrent vers la vérité. La colonne de feu apparut devant lui. Ils l'observèrent. Ils la virent. Paul essayant de prendre, un peu plus tard, il arrive à l'expérience qu'il eut. Essayant de raconter son expérience, il lui donne un type dans l'Ancien Testament. Il dit, « Maintenant nous sommes entrés dans quelque chose de nouveau, dans cette nouvelle dispensation par Jésus-Christ. Dans les temps anciens, le Seigneur leur apparut par les prophètes. Mais maintenant, il le fait par son Fils Jésus. Vous voyez ? Et il va dans, pour typifier les expériences et leur montrer ce qui se passait, comment les signes et les miracles et tout, et ce qui était écrit. Maintenant, il dit, ils n'entrèrent pas à cause de leur incrédulité. Ils ne crurent pas. Mais maintenant, nous qui devons avancer dans une dispensation, et n'endurcissez pas vos cœurs. N'agissez pas comme ils l'ont fait dans les jours de la provocation, quand ils provoquèrent Dieu. Comment le firent-ils? Pas en vivant immoralement. Laissez-moi vous broyer cela. Vous dites, frère Branham, je vais à l'église, c'est très bien. Je n'ai jamais menti de ma vie, c'est bien. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais fait ceci, cela ou l'autre, c'est très bien. Tout cela est bien. Mais cela n'est toujours pas le péché. Le péché, c'est quand Dieu se montre et que vous ne le croyez pas. Quand vous ne voulez pas l'écouter. Ah, vous dites, mon église n'enseigne pas cela. Aussi longtemps que la Bible enseigne et que Dieu le prouve, c'est cela qui compte. Maintenant, regardez juste un petit moment maintenant. Nous allons prendre maintenant quelque chose de très, très profond. Maintenant, mettez votre conscience dans votre poche de veston jusqu'à ce que vous soyez dehors. Regardez maintenant de très près. Craignons donc, alors que la promesse d'entrer dans sa, pronom personnel maintenant, quoi ? Que personne parmi vous ne paraisse manquer cela. Maintenant, Paul, dans les chapitres précédents, essayait de leur parler sur toutes ces choses. Mais maintenant, il essaye de leur dire ce que c'est. Oh, avons-nous le temps ? Peut-être qu'il est préférable d'attendre jusqu'à ce soir. Il se fait tard et nous allons avoir un service de prière. Peut-être qu'il est préférable que nous le prenions ce soir, car cela est vraiment plein de vitamines spirituelles. J'ai beaucoup à faire et je suis si occupé cet après-midi. Craignons donc tant que la promesse, maintenant, avait-il une promesse pour la terre promise là en Égypte? Et quand Dieu descendit pour faire de cette promesse une réalité, Dieu dit-il à Abraham, des centaines d'années auparavant qu'il le ferait, c'était scripturaire. Joseph dit, ne bougez pas maison d'ici avant que vous n'alliez dans cette terre promise, et ensevelissez-moi là-bas avec le restant de mes pères. Parce qu'il savait que la résurrection viendrait quand Jésus ressusciterait des morts, car il avait su ce que Job avait dit. Voyez, chacun de ces prophètes savait exactement ce que l'autre prophète avait dit, et il savait que l'esprit c'était le même. Et ils observaient, oh frère, oh j'aime cela, cela devrait nous secouer et nous faire sortir de notre condition soucieuse. Ils avaient leurs yeux, pas sur ce que les gens disaient, mais sur ce que ces prophètes disaient. Chacun d'eux attendait. Abraham dit, enterrez-moi juste ici où Job fut enterré. Il dit, Sarah, je vais acheter une petite pièce de terre et nous allons être ensevelis ici. Isaac était un prophète. Après que son père ait dit, écoutez, ne m'ensevelissez à aucun autre endroit, pas ici en Égypte, mais reconduisez-moi dans la terre promise. Vous m'ensevelirez juste là. Jacob mourut dans la terre promise. Mais il dit à son fils qui était un prophète, il dit, tu sais, une nuit l'ange me toucha sur le côté et depuis j'ai toujours boité. Viens, mets tes mains. Oh, grâce, mon fils prophète, je suis vieux et je suis aveugle, mais mets ta sainte main, étant prophète toi-même, mets-la à l'endroit où l'ange avait sa main et jure au Dieu du ciel que tu ne m'enseveliras pas ici. Béni soit. Pouvez-vous voir la révélation spirituelle de la parole? Mais la moitié ne savait pas. 90% ne savait pas de quoi il parlait. Mais lui savait de quoi il parlait. Mets ta main de prophète sur cet endroit où l'ange a mis sa main. Une fois j'étais un homme vigoureux, grand et robuste. Mais il me toucha. Et depuis lors, j'étais un homme boiteux. Mais j'étais un prince depuis que j'ai boité. Depuis que j'ai changé ma manière de marcher, j'ai été un prince. Oui, mets ta main ici et jure par le Dieu du ciel. Tu ne m'enseveliras pas ici. Pourquoi? Personne ne savait de quoi il parlait. Joseph le savait. Il dit, amène-moi là-bas et ensevelis-moi dans la terre promise. Voilà où c'était, certainement. Quand Joseph mourut des années après, il dit, « Ne m'ensevelissez pas ici, mais regardez à mes os quand vous passez, parce qu'un de ces jours, vous sortirez d'ici, et quand vous partirez, prenez mes os avec vous. » Voilà, vous y êtes. Laissez le monde dire ce qu'il veut, faire ce qu'il veut faire. Béni soit le nom du Seigneur. Garde-moi en Christ. Si on m'appelle quelque chose, un fanatique ou un holy waller, un jour, il viendra. Et ceux qui sont en Christ, Dieu les prendra avec lui quand il viendra. Tout cela est une vérité spirituelle, révélée, étant juste là. Et il faut un esprit spirituel pour comprendre. Reposez-vous sur cela pendant ce jour. Pensez-y. Même si vous manquez votre repas, pensez-y. Et ce soir, nous irons dans son repos qui est resté. Nous verrons ce qu'est cette promesse pour aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette chose aujourd'hui? Si Dieu ne l'a pas ici dans la Bible et le prouve, et c'est juste ici maintenant, alors je suis un faux prophète. C'est exactement juste. Mais c'est ici. Qu'est-ce que ce repos? Il dit, craignons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, d'entrer juste comme ils l'ont fait. Et cela doit être la même promesse. Cela doit être le même repos. Cela doit être le même Dieu. Cela doit être les mêmes signes. Cela doit être la même chose. Mais reposons-nous. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur nous accorde ce soir?
There you are. Let the world say what they won't do, do what they won't do. Blessed be the name of the Lord. He is Christ, if I'm called anything off. Fanatic or holy roller, some say he's coming. And those that are in Christ will God bring with him when he comes. It's all the spiritual revealed truth laying out there. It takes a spiritual mind to catch it. Rest on that through the day. Think of it. Even if you do without your dinner, think of it. And tonight, we'll go into his rest that was left and see what this promise is today. What is this thing today? If God has got you here to find and prove it, just right here now, then I'm a false prophet. That's exactly right. But it's here. What is this rest? He said, now let us fear, let the promise be lifted to enter in just like they did, and it's got to be the same promise. It's got to be the same rest. It's got to be the same God. It's got to be the same time. It's got to be the same thing. Well, let us rest now. What is it? May the Lord grant it to us tonight while we bow our heads. Blessed Lord.
Seigneur béni.
Only eternity
seulement l'éternité révélera les grandes choses que nous partageons ensemble. Petits et nombreux sont ceux qui sont ordonnés à la condamnation. Comme tu l'as dit dans le livre de Jude, que ce vieil homme préordonné à la condamnation, il prendrait la grâce de notre Dieu et la tournerait en lascivité. Et beaucoup aujourd'hui prêchent l'Évangile, la grâce de Dieu, et ils la tournent en un projet pour faire de l'argent, ayant une très grande église et l'école du dimanche la plus nombreuse, prenant la grâce de Dieu et la tournant en lascivité. Et le monde est aveugle. Ils s'en vont comme des porcs aveugles. Ils ne comprennent pas. Ô Dieu, ouvre notre compréhension. Ne permets pas que notre compréhension soit comme les enfants du monde. Car tu as dit dans ta parole que les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants de la lumière. Au début, c'était ainsi. Les enfants de Cain sont devenus de grands maîtres scientifiques. Ils sont devenus de grands éducateurs. Ils sont devenus des grands travailleurs de matériel. Ils ont continué à progresser très religieux. Mais ils étaient condamnés et ils se noyèrent dans le jugement. Et leurs carcasses flottèrent sur l'eau et leurs âmes s'en allèrent en enfer. Et Jésus vint et leur parla quand il mourut. Il alla en enfer. Il prêcha aux hommes qui étaient en prison qu'ils ne se repentissent pas au temps de la longue patience de Dieu, au jour de Noé, dit l'Écriture. Et Dieu, comme il se tenait sur la terre, il dit, comme il en était au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avenue du Fils de l'homme. Mais nous remarquons la lignée de Seth, des hommes humbles, de vrais hommes de Dieu, ne connaissant pas les choses du monde, ne prêtant aucune attention aux choses du monde, Ils avaient mis de côté tous les fardeaux, ils avaient cru en Dieu. Ils étaient devenus des prophètes et de grands hommes dans le royaume. Pendant que les autres, l'autre monde religieux, ils riaient d'eux, ils se moquaient d'eux. Mais l'heure est venue quand le déluge et les jugements sont arrivés. Ainsi en était-il à l'avenue de Jésus-Christ. Comme ils ont ri et ri de lui, alors qu'ils avaient leur propre religion et leurs grandes églises, ils se moquèrent de l'étoile du matin, ils se moquèrent de lui. Mais eux aussi entrent dans le jugement. Et quand ils s'enfuirent et entrèrent dans Jérusalem, là ils mangèrent leurs propres enfants de faim, et leur sang coula par les portes de la ville quand ils brûlèrent la ville et le temple, et leurs âmes s'en allèrent en enfer. Seigneur, nous y voici de nouveau à la troisième. C'est la dernière fois. Trois est le nombre de la vie et nous voici prêts pour l'enlèvement. L'Église continuant, le grand monde scientifique, les Églises aujourd'hui pleines de croyants sceptiques, des dizaines de milliers avec leur nom dans le livre, oui, des millions, et qui se moqueraient de l'Évangile, disant qu'ils ne sont pas instruits, ils ne savent pas. Peut-être que c'est comme cela, Seigneur. Mais ce qui nous manque en éducation, tu le donnes en grâce. En envoyant ton ange lumière, en manifestant sa puissance, confirmant la parole à ceux qui sont pauvres et illettrés comme nous. Mais nous t'aimons pour cela. Parce que c'est la grâce de Dieu qui l'a fait. Et nous savons que nous sommes nés. Et nous ne sommes pas gentils du tout, nous ne sommes pas du tout gentils. Mais toi, par ta grâce, tu as descendu ta main miséricordieuse. Tu as ouvert nos yeux comme Jésus a prié pour nous. Comme Élie l'a fait pour Géasi. Comme il regardait pour voir autour de lui. Et aujourd'hui, nos yeux sont ouverts. Nous voyons les choses de Dieu. Nous savons que nous arrivons à la fin des temps. Quand les jours des gentils sont à peu près terminés et il prendra un peuple pour son nom. Faites-nous y soyons inclus, Seigneur. Humblement, nous t'en supplions. Nous prions que tu nous l'accorderas. Bénis-nous. Bénis ce petit auditoire ce matin. Ils sont formés de tous les différents types de croyances religieuses. Mais mets-les de côté aujourd'hui, Dieu, et qu'ils regardent tous droit vers le calvaire. Oh, dis Dieu, façonne-moi et fais-moi. Je suis comme le prophète dit qu'il alla à la maison du potier afin qu'il puisse être cassé et remodelé. Modèle-nous. Fais-nous d'après la façon que Dieu aimerait nous avoir. Qu'importe, nous devons être le paillasson dans la maison du Seigneur. J'aime mieux être le paillasson que de demeurer dans les tentes avec les méchants. Accorde-le, Seigneur. Bénis-nous maintenant et garde-nous humbles. Ouvre nos cœurs et que notre esprit soit clair aux choses de Dieu, car nous le demandons au nom de Christ. Avec nos têtes inclinées, je me demande si quelqu'un aimerait être appelé dans un mot de prière pour le salut de votre âme. Voudriez-vous lever votre main? Est-ce un pécheur? Dieu vous bénisse, jeune homme. Quelqu'un d'autre? Dieu vous bénisse là derrière, monsieur. Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre aimerait être appelé dans la prière maintenant? Pour votre âme, Dieu vous bénisse, monsieur. Avec vos mains levées, et Dieu vous bénisse, et vous ici. Formidable. Y en aurait-il un autre juste avant que nous terminions? Il me semble qu'il y en aurait un. Dieu vous bénisse là derrière, monsieur, derrière. Voyez maintenant, je vais vous demander quelque chose. Je ne veux pas que vous pensiez que c'est à cause de ce petit tabernacle. Je ne veux pas que vous pensiez que c'est à cause des gens. Et le Dieu de miséricorde ne croit pas que c'est à cause de ça, parce que l'ange du Seigneur a eu sa photo pris avec moi. Crédulité, ils murmurèrent. Ils complètement, Dieu descendit directement là en bas, et quand il sortit, ils eurent tout de suite des problèmes. Cette colonne de feu était au-dessus d'eux. Je ne sais pas s'ils la virent tous ou non. Du moins, Moïse la vit. Elle était au-dessus d'eux et ils l'observèrent. Et quand ils descendirent, dites comme s'ils ne l'avaient pas vue. Je ne sais pas s'ils l'ont vue ou pas. Elle va devant eux. La Bible dit qu'elle était là. Elle dit, l'étoile avança devant les mages. Personne ne la vit, mais les mages. Elle passa au-dessus de tous les observatoires. Ils connaissaient l'heure par les étoiles. Personne ne la vit, mais les mages. Elle était là pour qu'ils la voient. Et les mages étaient ceux pour qui l'étoile avait été envoyée. Et la colonne de feu fut envoyée à Moïse. Et Moïse fut envoyé aux enfants d'Israël. Et ils étaient supposés suivre Moïse. Ils pouvaient voir...
Et quelque chose de cela pour faire cela. Oh Dieu, si je pensais de cette façon, alors frère, j'ai besoin d'aller à l'autel au lieu de vous le demander. Mais je dis seulement ceci par les Écritures, afin que vous voyez que c'est la vérité. Si je disais, et que c'est tout ce que nous en aurions, je ferais comme n'importe quel autre prédicateur ou quelque chose d'autre ou d'un autre. Bien, alors ce serait différent. Mais vous voyez la chose. Dieu vient autour, par derrière, et prouve que c'est la vérité. Vous voyez, voilà ce qui le rend vrai. C'est Dieu qui le prouve. Et alors, pas seulement cela, mais la parole dit qu'il le fera. Il le fait. Maintenant, si vous n'êtes pas juste, si votre cœur n'est pas juste avec Dieu, voudriez-vous simplement lever votre main? Dites, priez pour moi. Très bien, juste où vous êtes, à peu près 8 ou 10 mains se sont levées, désirant la miséricorde pour leurs âmes. Pendant que vous avez la tête inclinée, maintenant, vous priez. Rappelez-vous, vous êtes celui qui vous repentez. Je demande seulement pour vous que Dieu ait de la miséricorde. Mais c'est l'autel. Dieu vous a amené une place dans votre pensée. C'est l'autel. Nous croyons qu'il faut venir à l'autel, certainement. Mais ça ne fait pas, c'est très bien. Mais votre vrai autel, c'est là où Dieu vous rencontre. Et il vous a rencontré juste où vous êtes assis. C'est votre autel. Maintenant, dites, Dieu, sois miséricordieux pour moi, un pécheur. Et à partir de ce jour, si tu veux m'aider, je vivrai pour toi. Je te servirai. Cela m'est égal ce que n'importe qui vit. Ce matin, je sors. Je prie juste ici et tu sors ce vieil esprit effronté hors de moi. Tu sors ce mauvais caractère loin de moi. Je sais que je ne peux pas agir de la sorte et être juste avec Dieu. Et j'ai de la haine dans mon cœur. Je suis jaloux, j'ai de la malice. J'ai ceci, cela. Sors-le, Dieu. Je ne veux pas être comme cela. Rends-moi doux et humble et soumis. Rends-moi gentil. Rends-moi une telle personne que je puisse en gagner d'autres pour toi. Laisse-moi faire quelque chose pour toi, pour montrer de l'appréciation dans ma vie. C'est la prière que vous priez maintenant, alors que nous prions ensemble. Père Céleste, ils sont à toi. Ils sont les fruits du message ce matin. Ils ont levé leurs mains. Quelque chose leur a fait faire cela. Ils ont défié la loi de la gravitation quand ils levèrent leurs mains. Il y avait un esprit en eux qui a pris une décision. Ils ont levé leurs mains parce qu'ils ont accepté le Créateur qui les a fait. Maintenant, Père Céleste, je prie que tu vas les bénir et tu leur donneras la vie éternelle, juste maintenant. Il n'y a rien que je puisse faire. Les appeler autour de l'autel, les mettre dans une autre pièce, faire tout le travail, cela prend toi pour le faire, Seigneur. On ne peut rien faire d'autre que de prêcher la parole. Tu as dit, la foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on entend la parole de Dieu. Maintenant, nous avons prêché la parole et ils ont levé leurs mains qu'ils croyaient. Maintenant, donne-leur la vie éternelle, car tu as promis que tu le ferais. Et s'ils étaient sincères en levant leurs mains, ils sortiront du bâtiment ce matin, chrétien doux, humble et soumis, parce que tu l'as promis, et que tes paroles ne peuvent pas faillir. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant je veille, j'attends et je désire. Cette brillante cité que Jean a vu descendre. Dans cette cité brillante, adorez maintenant, cité d'un blanc perlé. J'ai un château, une arche et une couronne. Maintenant je veille, j'attends et je désire. Oh, cette cité brillante que Jean a vue descendre. Ne l'aimez-vous pas? Le message, c'est l'adoration. Nous ne venons pas seulement à l'église pour écouter le message. Nous venons pour adorer. Oubliez simplement la personne près de vous. Adorez-le seulement. Oh, comme c'est merveilleux, magnifique. Dites-lui simplement dans votre... Vous n'avez pas besoin de lui dire tout fort. Dites-lui simplement dans votre cœur. Je t'aime, Seigneur, pardonne tous mes péchés. Oh. Cité d'un blanc perlé.
J'ai un château, une asse et une couronne. Maintenant je veille, j'attends et je désire cette cité blanche. Que Jean a vu des temps. Notre Père Dieu, reçois-nous. Nous attendons comme nous écoutons la parole, désireux nos cœurs ont soif de toi, comme le cerf soupire après l'eau du ruisseau. Notre âme a soif de toi, ô Dieu, désirant et attendant. Attendant cette heure quand Jésus viendra. Attendant le temps où nous serons appelés au ciel. Pas pour nous tenir devant le juge, pour le jugement, c'est déjà passé. Nous sommes morts aux choses du monde. Nous sommes entrés en Christ. Il a pris notre jugement. Il est notre avocat sur notre confession. Il plaide notre cas jusqu'à ce que nous sachions que nous sommes indignes. Comme une chère vieille sœur l'a dit ce matin dans son témoignage, en donnant ses centimes, « Depuis que je viens ici, j'ai appris que ce n'est pas ma sainteté, c'est la sainteté de Dieu. » Vraiment, Seigneur, nous enseignons aux gens, il n'y a rien devant l'homme, rien du tout. Qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui? Mais c'est la grâce de Dieu qui nous est apparue. Et nous avons seulement confiance en ses mérites et pas dans les nôtres. Et nous t'adorons, très saint Dieu, pour ta bonté de nous inclure dans ton grand royaume et dans ton grand plan. Nous te recevons dans nos cœurs par la foi. Et par la grâce, nous croyons que tu nous l'as donné pour la gloire de Dieu, pour le service de Dieu. Maintenant, Seigneur, guéris les malades comme ils viennent pour que l'on prie pour eux ce matin. Donne-leur cette joie, car ils désirent être guéris. Fais-leur savoir que cette petite affliction légère qui était mise sur eux, c'est seulement un petit moment d'épreuve. Dieu connaît tout cela. Il l'a fait pour voir ce que nous ferions concernant cela. Comme Dieu nous a fait sauter là-dehors et réclamer ce travail fini. Qu'il ne se provoque pas par en courant de ci, de là, et en dedans et en dehors. Viens, je ne sais pas ceci, cela est. Seigneur, qu'il prenne une bonne position, qu'il dise, Seigneur, tu es celui qui m'a sauvé. Tu es celui qui a fait ces choses pour moi, je te crois, et j'ai confiance en toi aujourd'hui. Et je prie que tu accorderas cela aux gens, dans le nom de Christ. Amen.